du coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce numéro 762 du Coq à l'âne. Nous sommes dans la salle de jeu du Casino Circus de Briançon, à la table de Blackjack, où je suis à la place du croupier et où les joueurs qui sont face à moi sont prêts à en découdre. Alors, on va les saluer. Tout d'abord, Philippe Stockley, qui pense plus musique que carte lorsque l'on évoque Blackjack, non ?
Ah bah oui.
Hein ? Parce que j'avais pensé à ça, moi. C'est qui ?
Steely Dan.
Bravo, bien. C'est un bon point. Nous avons aussi... Alors, on attend le seigneur de la bande, qui devrait pas tarder à arriver. Normalement, c'est Jean-Paul. Nous avons Yves Honoré. Un penchant pour les cartes, Yves, ou pas ?
Oui, mais pas forcément Blackjack, quoique j'aime bien, mais plutôt Bridge, moi.
D'accord, ok. Et Rémi Chouissac est avec nous aussi, plutôt... Alors, Blackjack, non, mais plutôt Jack Daniel, vous.
Non, pas du tout Jack Daniel. Blackjack et Bridge également, avec Yves.
Et on accueille notre invité. Et c'est Guillaume Le Bigot à la tête des Chalets Bayrou, ex-président des Diables Rouges de Briançon. Alors, j'insiste parce qu'on va bien sûr en dire un mot. Bonjour, Guillaume.
Bonjour.
Et puis, bien sûr, l'heure est comme d'habitude à l'ouverture. Parole d'ouverture à notre meneuse de revue. D'ailleurs, en écrivant meneuse de revue, j'ai eu l'image. J'imaginais tout à fait Philippe au paradis latin.
Zizi Jean-Mère.
Oui, pourquoi pas. En tout cas, c'est toi qui ouvres le bal, Philippe, et on t'écoute.
Content de te retrouver au micro d'Alpe 1, Guillaume. Désormais, possesseur de la carte Gold, invité Coq à l'âne, puisque cela fait déjà 4 fois que nous te recevons Coq à l'âne Briançonnais. Et puis, Guillaume, c'est important de le dire, tu es un de nos bons clients. Alors, bon client, ça ne veut pas dire que tu nous achètes 2 cartons de porte-clés et t-shirt Alpe 1 en repartant de la mission, voire éventuellement quelques espaces publicitaires que nous aurions pu entendre sur l'antenne d'Alpe 1. Là, il faudra voir directement avec Annabelle de la radio des Alpes du Sud pour la négociation du contrat. Non. Le bon client au Coq à l'âne, c'est l'invité cash. Le propos facile et les bons mots pour le dire, tout ça bien sûr sans l'incontournable retenue des politiques, sans la réserve des gens prudents. Non, le bon client, comme dirait le Dauphiné, dans un article consacré à Guillaume et au projet de la Haute École du Bois, c'est celui qui ne mâche pas ses mots. Étrange expression que celle-ci, mais en gros, Guillaume, quand il balance. Et ça ne fait pas toujours plaisir à tout le monde, mais manifestement, notre bon client du jour, ce que peuvent penser les autres de lui, il s'en fout. Et nous, au Coq à l'âne, on aime ça. Et on espère qu'à chaque fois que le patron des Chalets Bayrou oublie évidemment de mâcher ses mots. Je parlais à l'instant du Dauphiné, et plus précisément d'un article paru le 23 novembre dernier au sujet donc de la Haute École du Bois dont le projet battait de l'aile à l'époque. Nous parlerons de son actualité tout à l'heure, Guillaume. Et voici le commentaire de Guillaume à l'époque qui ne croyait pas à une relance du projet. C'est du blabla politique, rien que du blabla politique pour les médias. Mais dans les faits, il n'y aura rien. C'est pas si souvent qu'on lit ou que l'on entend ce genre de propos non mâchés. Et encore là, il ne s'agissait que de généralités. Voici la suite où notre bon client n'est pas tendre avec Chantal Ameyoud en sa qualité de vice-présidente du conseil régional. Elle n'a jamais soutenu celui qui devait porter le projet. Et maintenant, elle relance le projet. Avec qui? Comment? Avec quel argent? Avec quelles compétences? Cette annonce, c'est du vent. C'est n'importe quoi. Il ne faut pas se leurrer ni se laisser berner. Ce ne sont que des effets d'annonce médiatiques. Il avait envie de le dire. Guillaume, il l'a dit. Chantal, si tu nous écoutes...
Ouais, Chantal, magnifique, souvenez-vous.
Bon, tout ça ne veut pas dire qu'au Coq à l'âne, nous recherchons forcément les propos polémiques ou provocateurs, à tout prix. Il y a assez de médias ou assimilés qui s'en chargent. Hein. Et d'un autre côté, je sais que Guillaume ne cherche pas à polémiquer ou à provoquer en s'exprimant de la sorte. C'est juste que notre bon client s'est un peu agacé. Quand on est chef d'entreprise, on est confronté tous les jours à la prise de décision, à la réalité de l'instant, à assumer ses responsabilités, sans se défiler dès que ça coince. Alors, en face de ça, l'attentisme et la molle prudence politique, voire les influences discrètes non avouées, peuvent agacer. Ça, je le comprends, et je comprends l'exaspération de Guillaume. Et tant que nous sommes dans l'agacement, je vais prendre le relais. Je voulais vous faire part de celui que je n'ai pas pu éviter il y a quelques jours. 5 ans après le début du Covid, des scientifiques en mal de notoriété ont sorti récemment toute une théorie sur comment le gouvernement avait loupé la gestion de la pandémie. Les fameux adeptes du « fallait pas faire comme ça ». J'ai même vu le titre du Figaro au sujet de cette publication, deux points ouvrir les guillemets, quand la France, au temps du Covid, prenait des airs d'absurdistan. Refaire le monde après, sans complexe, faire et défaire les batailles, nous étions à l'époque dans une situation d'ignorance totale face au mal qui arrivait si vite. Les morts du début, les maisons de retraite décimées, tout ça était une inquiétante réalité. Mais il fallait gérer une épidémie que personne ne savait comment la contrer. Aucune référence dans l'histoire, aucun mode d'emploi. Rappelons-nous qu'on nous donnait tous les soirs le nombre de victimes de ce mal. Rappelons-nous que dans nos familles ou dans nos relations, nous connaissions au moins une personne qui était morte du Covid. Alors aujourd'hui, critiquer et donner des leçons semble tellement pitoyable, tellement facile. Bien sûr, sur le volet économique, on pourrait être aujourd'hui critique sur le fameux « quoi qu'il en coûte », bien louable sur le fond, mais dont les effets pervers auraient pu être anticipés, parce que les tricheurs et les profiteurs existeront toujours, même dans les moments les plus difficiles. Mais s'il vous plaît, que ces gros malins qui savent tout après se taisent, critiquer et donner des leçons a posteriori d'une absurdité, taisez-vous donc. Qu'ils se taisent eux, mais surtout que notre bon client du jour s'exprime. Alors je reviens vers toi Guillaume, dont le métier est de décider, de ne pas hésiter, d'aller vite et fort quand il le faut, parfois contre les avis contraires. C'est ce qui s'est passé en 2020 pour le Covid. Il fallait faire quelque chose et vite, contre beaucoup d'avis contraires, voire complètement ridicules. Alors n'oublions jamais ce qu'il s'est passé, et réfléchissons toujours à deux fois avant de condamner quelque chose. Tout sur ce, Guillaume, bienvenue.
Merci.
Et nous allons enchaîner directement sur le sujet évoqué, la Haute École du Bois.
On salue quand même Jean-Paul qui nous a rejoint.
Ah, oui. Jean-Paul.
J'avais trouvé Jean-Paul. Rien de mieux. J'étais là pour une fois en 25 ans. J'étais là.
Non.
Et j'avais oublié mon dossier.
C'est le dossier.
J'étais très fier pourtant d'être en avance.
C'est le dossier sur Guillaume.
Non, même pas. Là, je l'ai dans ma tête.
Ouais, Philippe. Donc Guillaume, la Haute École du Bois. Donc c'est un joli projet dont on a entendu parler il y a quelques temps. Un joli projet à l'Argentière, la BC. Quelque chose qui ressemblait à quelque chose. Et puis, le 23 novembre...
Oui, c'était un joli projet. Je faisais partie du conseil d'administration et on n'a pas été soutenu, par les politiques. Joël Giraud nous soutenait, mais il a arrêté sa carrière assez brutalement
voilà,
on peut dire. Et donc, on n'a pas eu l'appui de la région. L'appui de la région, ici, la région, c'est Chantal Ameoud, qui, elle, forcément, aurait déjà préféré. C'est un peu comme l'histoire de l'autoroute, quoi. Elle aurait préféré l'école à Embrun plutôt qu'à l'Argentière. Et puis après, elle n'a jamais soutenu le projet. Et sans la région, c'était très compliqué. Et donc, maintenant, de dire on va relancer le projet, c'est alors qu'on l'a tué dans l'œuf, c'était. Voilà. Et puis, le projet, il ne verra jamais le jour. Parce que la personne en charge, Florian Cour, qui bossait beaucoup, qui a beaucoup, beaucoup travaillé, maintenant est parti faire autre chose. Et après,
oui, il fallait un porteur de projet. Quoi.
Voilà, il fallait le porteur. Nous, les privés, on n'a pas été forcément très bons. On était dirigés par Bouygues. On aurait dû, les premières années, payer les études avec l'argent des sociétés privées, avec des grosses boîtes. Moi, j'étais la plus petite, alors c'est peu dire. Mmh. On aurait dû financer les études les 2-3 premières années et la politique, ça tourne. Et voilà, ça, on n'a pas été bon non plus. Quoi. Faut dire les choses. C'est un regret parce que cette école, on était associé avec l'Italie, avec la Suisse, avec. Pour les Hautes-Alpes, enfin pour les Alpes françaises et pour le métier du bois,
ouais,
de notre région, ça aurait fait une école d'ingénieurs qu'on n'a pas. Il y en a une à Nantes, il y en a une à Épinal, et il n'y en a pas dans le quart sud-est. Quoi.
Qui a eu l'idée de lancer ce projet?
C'est Florian Cour qui a eu cette idée, avec les élus de l'Argentière, parce qu'il restait encore de la friche industrielle où il y avait les FAP, parce que forcément, pour faire ce campus, il faut beaucoup de place. À l'Argentière, on a un train qui ne marche pas toujours, mais il est quand même là. Et puis, on est dans une région de montagne forestière. Et puis on a un manque de formation supérieure parce que pour attirer les jeunes dans nos métiers, dans le métier du bois, il faut pouvoir dire aux parents, votre fils sortira ingénieur, voilà, moi j'avais un CAP BEP, aujourd'hui ça fait rêver personne, il faut des formations diplômantes. Voilà. Puis il n'y avait pas ça en Italie, il n'y avait pas ça en Suisse contrairement à ce qu'on pense, moi je bosse aussi en Suisse. Voilà, on était avec plusieurs pays, c'était un super projet. Mais moi, même si je connais la politique et que j'étais associé avant avec un politique, là, j'ai vraiment été confronté à cette lenteur
à une lenteur administrative qui moi à 53 ans je peux pas supporter quoi. Si on gérait nos boîtes comme ça on serait tous par terre, c'est une certitude. On voit l'état de la France, bah oui c'est géré pareil donc voilà. Mais c'est dur quoi. C'est en fait quand on n'est pas dedans c'est même pas imaginable. Voilà. Donc même quand on fait des réunions, que tout le monde dit oui, qu'on vote, bah, il se passe rien. En fait les écoles il faut les faire, vous savez quoi, faut les faire privées totalement. Moi j'ai mon ancien collègue Jacques Rebaud, président des Brûleurs de Loups, il a vendu sa boîte à Foncia, maintenant il fait des écoles privées à Grenoble, ça marche super bien. Mmh. Aux États-Unis ils font comme ça. C'est malheureux à dire, mais on aurait dû, à mon avis, si c'est compliqué, on aurait dû faire du privé.
Tu rebondissais sur le gouvernement et la France. Hein. Ouais. Est-ce qu'il nous faudrait effectivement un entrepreneur à la tête de l'État français?
Mais entre Trump et. Bérou, il y a peut-être
il y a juste milieu.
Ouais, il y a un juste milieu. Mais de toute façon, il faudra bien qu'un jour ils prennent des décisions. Sinon, l'économie elle va les prendre à leur place. Hein. De toute façon, c'est le jour où les banquiers vont plus prêter ou vont prêter un taux qui va tout mettre par terre, les réformes elles vont se faire d'elles-mêmes. Moi, j'ai toujours dit, les réformes elles se font économiquement. Alors, ça va prendre du temps, mais elles se feront. Hein. Alors voilà.
Mais une réaction.
Ce projet donc d'école, c'est terminé.
Ah oui, c'est terminé, parce que, bon, ils ont beau dire qu'ils veulent relancer, mais relancer avec qui? Avec, il n'y a plus la personne qui était en charge, qui avait fait un super boulot, et ils ont dissous l'association, et donc il faudra aller revoir les entreprises. On n'est pas dans une période faste au niveau du bâtiment comme on l'était à l'époque. Enfin bon, moi j'y crois pas, puis moi s'ils reviennent me voir, je vais leur dire, oui, ok, mais là... on fait un tour de table, mais voilà, moi les politiques ça va pas marcher comme ça. Sinon on fait rien, c'est sûr. Et en plus on a loupé, maintenant il y a les JO 2030, on aurait pu être aidé.
Ouais.
On a loupé le coche. Je vous dis, on n'a pas été bon. Voilà. Ouais. Bon.
Jean-Paul ?
C'est d'autant plus rageant que les politiques sont toujours les mêmes. Hein, tu as parlé d'une dame qui est dans la région d'Embrun, il me semble. Elle est toujours là, donc elle, voilà, même cause, mêmes effets. Elle ne fera rien pour cette école extraordinaire. Donc on dira au petit Briançonnet, aller dans une école à Nantes. C'est pas très loin, au fond.
En plus, on avait le soutien des compagnons du devoir, dont je fais partie.
Ouais.
Donc on avait vraiment... on avait tous les atouts pour que ça marche bien. Quoi. Et voilà.
Rageant.
Une réaction du côté de Rémi ou Yves ?
Moi, étant donné que je suis issu du privé comme Guillaume et que j'étais dirigeant d'entreprise et que j'ai mis un petit peu un orteil dans la gestion municipale de ma commune, j'adhère 100% à ce que dit Guillaume et j'ai l'impression qu'il y a des politiques qui n'ont leur existence que parce qu'ils ont un dossier sous le bras. Donc là, la dame que je ne connais pas personnellement, mais qui reprend un dossier, ça va être une marotte, elle va avoir un dossier, elle va exister grâce à ce dossier. Qu'il aboutisse pas, c'est encore mieux, comme ça il reste encore plus longtemps sous le bras. Donc les choses qui n'aboutissent pas, c'est l'existence même des politiques.
Oui, des politiques.
Tu vois, je ne sais pas si je le dis bien.
Sécurité, oui.
Je ne sais pas si je le dis bien, mais... Plus ils ont le dossier longtemps sous le coude, ouais.
plus
ils ont du grain à moudre, des choses à dire, des relances à faire. Et Guillaume, je le comprends, le train de l'Argentière est passé une fois, il ne repassera pas deux fois.
Yves ?
Oui, alors, moi j'avais entendu parler de cette école du bois par Ricochet, puisqu'on était allé à la sous-préfecture pour une autre association que vous connaissez, puisque vous aviez invité le président.
Oui.
Le VCS, vivre sa vie chez soi. Et on avait un projet intéressant d'une construction de logements inclusifs, etc. Et la sous-préfète a dit eh bien, on ne va pas pouvoir vous aider, en tout cas cette année, parce qu'on a mis un accord pour l'école du bois. Donc moi, je m'étais dit c'est bien, l'État finance l'école du bois, donc tout semble bien parti. Et puis après, j'ai appris que ça marchait pas, quoi.
T'as pas rappelé la sous-préfète ?
Ah bah si, mais on a rendez-vous.
Elle a de l'argent pour toi.
On va peut-être faire du logement inclusif pour les vieux, au lieu de faire l'école du bois pour les jeunes. Mais en tous les cas,
l'un n'empêche pas l'autre, quoi.
Exactement. Moi, j'étais absolument pas du tout opposé. Au contraire, je trouve ça génial. Si ce n'est peut-être une facette que moi j'ai rencontrée quand j'ai recruté des cadres ou des gens diplômés, comme visiblement c'était pour l'école du bois, il y a un problème pour les épouses ou pour les conjoints quand ils sont dans le Briançonnais, c'est qu'il faut de la culture, il faut du boulot pour les conjoints. Et nous, on est quand même un peu retirés. Et souvent, ça capote aussi à cause de ça.
Pas oui, tellement, c'est en frein, quoi.
Pas tellement sur le projet lui-même, mais, ouais. mais sur le reste.
Les à côté.
Les à côté,
ouais. Moi, je vais m'adresser au chef d'entreprise qui est autour de cette table. On en parlait avec Philippe dans son édito, le confinement, qui commençait il y a 5 ans, a porté avec lui pas mal de changements de notre société, comme le télétravail. Vous savez que ça a été déployé d'urgence à partir de mai 2020. Le télétravail a concerné jusqu'à près 30% des salariés au cœur de la crise sanitaire. Et pourtant, 5 ans après, bien, les grandes compagnies américaines, notamment, rappellent tous leurs employés en présentiel en France, sans renoncer à 100%. Les entreprises, visiblement, durcissent les règles. Alors, la question que je voulais vous poser, est-ce qu'il faut mettre fin au télétravail ? Est-ce que c'était une bonne chose ? Est-ce que c'est plus une bonne chose ? Bah, je vais commencer par toi, Guillaume.
Le télétravail, ça a accéléré un peu, bon, je vais être un peu dur, mais la fainéantisation de la société, quoi. Voilà.
Allez, le mot est lâché.
Après, moi, je connais des grosses boîtes, parce que j'ai des clients pour qui je travaille qui sont des grosses boîtes, ils ont rappelé tout le monde et c'est terminé.
Ouais.
Et nous, on a des personnes qui ont entre 40 et 60 ans, je dirais, comme une compta, par exemple, qui bosse en télétravail chez elle et ça va très bien. Mmh. Donc, à la carte, il n'y a aucun problème avec certaines personnes où, par exemple, la compta, elle n'est pas liée tous les jours au gars qui fait du dessin technique et tout ouais, ça.
Le présentiel n'est pas voilà, tenu. Quoi.
Nous, des fois, on a des archis intérieurs qui nous demandent une journée, bon, souvent le vendredi, bien sûr.
Ouais, j'allais venir.
On n'est pas trop chaud, mais on s'y met quand tu serres un peu. Bah, de toute façon, le lendemain matin, tu as un papier de maladie. Donc voilà, soit télétravail, soit le rhume. Donc il faut choisir. Je dirais qu'on. Moi, j'ai une bonne équipe de jeunes, mais c'est vrai qu'on est assez cool. Après, les jeunes, de ne pas venir au bureau socialement, ça les a un peu perturbés, plus que les anciens, d'avoir ce rapport avec leurs collègues. Donc nous, on le fait, mais vraiment. Sauf une ou deux personnes, mais on le fait vraiment. Mais de ce que je vois autour de moi, il y a un retour.
Oui, ça s'est calmé. Quoi.
Voilà, dans les grosses boîtes, comme ils ne peuvent pas faire comme nous à la carte, bah, ils ont tout à fait.
Oui, voilà. Yves ?
Alors, ce que dit Guillaume est tout à fait juste. Et moi, je pense que le télétravail était intéressant dans les boîtes où les gens se connaissaient déjà. Parce qu'en fait, ils communiquent par vidéo le lien, il est déjà là. Mais pour des jeunes qui arrivent dans une boîte et c'est tout en télétravail, c'est l'enfer. Ouais. Comment on peut créer un lien social ? Comment on peut créer un esprit d'équipe sur du digital ? Moi, je n'y crois pas. Il faut se taper dans la main, il faut boire un café, il faut...
Oui, c'est important, effectivement.
Il faut discuter du film de hier soir.
Même si on n'est pas toujours copains avec tout le monde.
Bah, absolument, mais tout en télétravail, ce n'est pas possible.
Il y a un poste qui a été inventé en télétravail. Hein.
Ah, c'est le
manager sportif. Hein. Depuis, Luciano Belli, il a inventé ce poste. Depuis l'étranger. Assez coûteux d'ailleurs, mais il a inventé ce poste-là.
Ça tombe bien que tu parles de ça, puisqu'on va parler de hockey, Guillaume.
Tiens, c'était juste par rapport au télétravail.
C'est bien. Non mais là, la transition est magnifique. Il était difficile de ne pas évoquer évidemment les Diables Rouges, en particulier le hockey alpin en général. Une saison qui n'aura pas été des plus simples pour nos clubs alpins. Alors, les Briançonnais se sont bien relevés d'un début de saison difficile. En revanche, les Rapaces, ils sont au fond du trou. Hein.
Bah oui, pour Briançon, comme quoi il faut savoir passer la main. Parce que
je m'excuse, fais toujours partie un peu ?
Oui, je suis actionnaire.
D'accord.
Ouais, je suis partie des quatre actionnaires majoritaires. Après, il faut savoir passer la main. Et je suis bien content que ça marche mieux sans moi. Parce que j'y passais pas assez de temps, il faut être clair. Hein.
Ouais,
c'est vraiment. Pascal, aujourd'hui, c'est un mi-temps.
Faut pas faire du télétravail.
Non, faut pas faire du télétravail. Et quand on est chef d'entreprise, on n'a pas assez de temps parce qu'il faut. C'est comme avec nos salariés. C'est comme si moi, j'étais jamais avec les salariés de mon entreprise. Il faut être tous les matins avec les bénévoles, les joueurs, le staff. C'est ce qu'a fait cette année Pascal et c'est ce qui a fait la différence. Et quand on voit Gap, le manager, il démissionne une semaine avant le début de la saison. Bah, ça peut finir que comme ça.
Ouais, ça sentait pas bon.
Ces deux clubs, c'est dur parce qu'ils ont des petits budgets. Et dès qu'il y a un petit grain de sable, ça finit exactement comme ça, c'est terminé. Enfin, moi, je suis bien content pour Pascal qui m'a remplacé, qui bosse beaucoup pour le nouveau staff. Et Et je suis bien content que ça se termine comme ça.
Pour Gap, l'effet Luciano aura été de courte durée.
Ça fait pchit, et puis bah, c'est du réchauffé, c'est un peu des fois comme dans un couple. Ouais. Ça fait pchit, puis à distance, bah, je vois pas comment... Alors, il y a des métiers à distance, on y arrive. Hein. Mais là, l'IA, c'est encore pas là dans le hockey. Hein. Donc à distance, même en visio, non, j'y crois pas du tout. Par contre, je sais exactement combien ça a coûté, et là, c'est un job en télétravail où il est le champion du monde. Il reste le meilleur là dans ce domaine.
Oui. Jean-Paul. Mais c'était d'autant plus étonnant. Bon, je suis un peu désolé, un peu seulement désolé pour Gap.
Attention, rien n'est fait.
Rien n'est fait. Oh,
rien n'est fait parce qu'il peut y avoir ce qu'a vécu d'ailleurs ce qu'ont vécu les Diables Rouges pendant deux ou trois saisons.
Oui, oui,
quatre.
Tout à
quatre
fait.
Saisons.
Quatre. Oui, on n'en est plus.
Mais enfin, avec les années Covid, il n'y avait pas de descente.
On n'en est plus à un an près, puis bon, des tas de malheurs. Mais ce que je trouvais étonnant, c'est qu'ils avaient deux entraîneurs, puis ils en ont mis un qui sont allés chercher très loin, qui a trouvé un autre entraîneur. Combien ils étaient à la fin d'entraîneur?
Bah, c'était cinq. Ouais, bah, c'est ça. Ils ont fait venir un Italien en plus de Pérez et de Roa. Donc là, c'est sûr qu'il y avait un budget entraîneur par rapport aux joueurs. Mais bon, quand le mal est fait, moi j'ai changé d'entraîneur, mais ça sert à rien. Là, cette année, par exemple, avant Noël, on est dernier à moins 6 points. Et on perd 9-2 à Angers. Bah, si Pascal il change d'entraîneur, bah, je peux te dire qu'on serait aujourd'hui dernier. Et il a gardé l'entraîneur. Quand tu dérapes, tu peux bien changer les entraîneurs, tu peux bien en ramener d'autres. On le voit au foot, on le voit un peu partout. Hein.
Quand ça va pas, ça va pas. Vous avez suivi un petit peu, vous, Rémi, Yves, la saison?
Et c'est vrai que les gens de Gap étaient assez pessimistes dès le départ. Avant le départ de la saison, ils disaient « c'est pas terrible, terrible ». Le manager qui démissionne 8 jours avant, c'était un signe...
De quoi rebondir maintenant, hein, s'ils redescendent, repartir sur une feuille blanche, j'allais dire, et puis essayer de reconstruire.
Ouais, par contre, s'ils descendent, ce qui n'est pas fait, parce qu'il faut que Dunkerque
monte. Dunkerque monte,
voilà.
Oui.
Par contre, s'ils descendent, ils disent on va remonter. Mais c'est presque impossible de remonter. Hein. Dunkerque est super fort cette année. Il y a une chance sur 5-6 qui monte. Mais bon, qu'ils battent Strasbourg, qu'ils battent Épinal, qu'ils battent Tours. C'est très très dur de monter. Les derniers qui l'ont fait, c'est Bouillançon. Dans la nouvelle Magnus, personne n'est remonté. Moi j'ai lu les interviews, ils disent qu'ils vont continuer à avancer. Quand t'es en D1, t'avances pas, tu recules. Mais une fois que t'es en D1, remonter. Et ils ont aussi subi le fait que Marseille soit le club qui monte, qui leur a piqué leurs bons joueurs, qui leur a pris leurs bons joueurs. Il n'y a plus les licences bleues. Bah, tout ça c'est une...
Ouais.
Et puis voilà, aujourd'hui ils sont en D1. J'ai toujours dit que quand... Sans fusion, les clubs des Hautes-Alpes sont appelés à disparaître, du haut niveau, c'est une certitude.
Ça, tu l'as toujours
dit.
Mais ça, c'est comme la politique, c'est l'économie qui règle le problème. Hein. Ouais. C'est exactement comme la politique.
Ouais. Ouais.